Galhistoire, l'application qui fait adorer l'histoire. Avec l'application Galhistoire, écoutez et regardez des centaines d'histoires à l'infini. Retrouvez tous les personnages Galhistoire, la série Mythes et Légendes et des nouveautés chaque mois. Vous pensez que vos enfants en sauront plus que vous sur l'histoire de France ou sur la mythologie égyptienne? Eh bien, vous avez raison. Alors, prêt à les faire voyager dans le temps? Essayez dès maintenant l'application Galhistoire à télécharger sur l'Apple Store ou Google Play.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dans la classe 2. Avec Dans la classe 2, vous allez avoir la chance d'assister à une discussion entre des enfants de votre âge et un personnage historique. Marie Curie, Napoléon ou encore Nefertiti, écoutez ces figures de l'histoire pour raconter les événements marquants de leur vie et surtout répondre aux questions de leur jeune public. Prêt ? Alors en avant pour découvrir Dans la classe 2... Bien. Vous pouvez fermer votre cahier de français, nous allons commencer notre leçon d'histoire.
Arrête, tu prends toute la place.
Moi, je prends toute la place. Mais c'est toi qui tapes tes affaires sur mon bureau.
N'importe quoi. C'est toi avec ton coude qui me dérange.
Zoé, Malik, un problème ?
Non,
c'est bon.
Oh bah non, c'est pas bon du tout. Ils passent leur temps à se disputer depuis qu'ils sont voisins de table.
Et ça devient plus que pénible.
On se calme. N'oubliez jamais, c'est très important de savoir vivre avec ses voisins. Et parfois, il faut faire preuve de diplomatie.
La diplomatie ? C'est un cousin du diplodocus, ça, non ?
Pas vraiment. La diplomatie, c'est l'art de savoir discuter avec les autres, même lorsqu'on est en désaccord avec eux. Ça permet de trouver des compromis, des terrains d'entente. Mais vous savez quoi ? Pour notre leçon d'histoire du jour, je vais vous présenter quelqu'un qui va vous expliquer l'importance d'avoir de bonnes relations avec ses voisins. Et pour ça, nous allons ouvrir...
Le grand livre d'histoire !
Exactement ! Et notre invité du jour est... le roi François Ier.
Oui ! T'as vu sa barbe ? Elle a l'air aussi douce que mon pull.
Et il est marrant son chapeau, avec une grande plume blanche dessus.
Bien le bonjour, jeunes gens. Quelqu'un peut-il me dire ce que je fais ici ?
Bonjour, mon roi. Je vous ai sorti du grand livre d'histoire pour que vous puissiez parler à mes élèves des relations parfois tendues que vous avez pu avoir avec les autres souverains de votre époque. Et si vous pouviez parler de vos actions diplomatiques pour apaiser ces tensions, ce serait très intéressant.
Oh oui. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais pour que vous puissiez comprendre, je vais reprendre depuis le tout début de mon existence. Tout commence par un devin qui, un beau jour, a fait une prédiction à ma mère, Louise de Savoie.
Un jour, madame, vous aurez un fils et ce sera un roi.
Toutefois, il y avait un problème dans sa prédiction. Car lorsque je suis né, le 12 septembre 1494, je faisais partie de la famille royale, mais je n'étais pas un héritier direct de Louis XII, le roi de l'époque. Donc, hors de question pour moi de monter sur le trône.
Peut-être que le devin, il a dit ça pour faire plaisir à votre maman ?
C'est fort possible. Sauf que quand le roi est mort, en 1515, il n'avait pas encore eu de fils pour lui succéder. Alors, comme j'étais l'un de ses proches cousins et accessoirement le mari de sa fille, c'est moi qui ai pris sa suite à la tête du royaume. Et la prédiction du devin s'est réalisée.
Moi, je pense surtout qu'il a eu beaucoup de chance, hein, ce devin.
Ça doit être trop bien d'être roi, n'empêche.
Moi, si j'étais reine, j'ordonnerais que l'on serve des frites et de la mousse au chocolat tous les jours à la cantine.
Oui, vous avez raison, c'est une position plutôt enviable.
Sauf qu'à cette époque, l'Europe était divisée en trois grandes puissances. Il y avait donc le royaume de France, le mien... le royaume d'Angleterre, dirigé par Henri VIII, un roi aussi colérique qu'imprévisible. Et enfin, il y avait l'Empire des Habsbourg.
Des quoi ?
Les Habsbourg étaient une famille très puissante qui régnait sur une grande partie de l'Europe de l'Est.
Très puissante, oui, si on veut. Et à leur tête, il y avait l'horrible Charles Quint, un homme ayant pour ambition de conquérir toute l'Europe pour en faire un empire entièrement chrétien.
Ça peut l'air d'être votre copain, lui.
Pas vraiment, non. Mais nous y reviendrons un peu plus tard. Moi, vers 1515, j'ai d'autres envies. Poursuivre les conquêtes italiennes entamées par les rois précédents. Et mon premier objectif sera de m'attaquer au duché de Milan, au nord de l'Italie.
Bah forcément, si tout le monde veut conquérir tout le monde, vous allez avoir du mal à vous entendre.
Oui. C'est vrai que maintenant que vous le dites, ce n'est pas un très bel exemple de diplomatie.
Et qu'est-ce qui s'est passé ?
En 1515, donc, je franchis les Alpes à la tête d'une armée de plus de 30 000 hommes. J'ai confiance en mes soldats et je suis sûr que nous allons remporter la victoire. Mais là, face à nous, se dressent les mercenaires suisses, engagés pour défendre le duché de Milan. Ces soldats sont si bien entraînés qu'ils sont jugés invincibles. Alors, n'écoutant que mon courage, je donne l'assaut. Et surtout, j'ordonne que l'on utilise nos canons. Submergés par nos troupes et notre artillerie, nos ennemis s'avouent vaincus à Marignan et ce 14 septembre 1515 marque ma victoire.
C'est la première fois dans l'histoire que les canons permettront d'assurer la victoire d'une telle bataille.
Et du coup, vous allez toujours faire la guerre contre vos voisins ?
Non, heureusement non. Figurez-vous que j'ai également d'autres passions comme les arts et les lettres. J'apprécie tout particulièrement les œuvres d'un certain Léonard de Vinci, un peintre, mais aussi un ingénieur, un penseur, un architecte et un scientifique, quelqu'un qui sait tout faire en somme. En 1516, je l'invite à Amboise, l'un de mes châteaux construits sur les bords de la Loire. Et nous devenons amis. Et vous savez quel cadeau il me fait ?
L'un de ses pinceaux ?
Mieux !
Des conseils pour avoir une belle barbe ?
Non, 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 pas vraiment, non.
Un de ses tableaux ?
Oui, et pas n'importe lequel. La Joconde.
Moi aussi, quand je serai devenu un grand artiste, je vous offrirai certaines de mes œuvres.
C'est merci, hein.
Et pour moi, 1516 est une grande année, car c'est aussi là que je vais signer un concordat avec le pape Léon X.
Qu'est-ce que c'est un concordat ?
C'est comme un accord écrit entre plusieurs personnes. Il me semblait essentiel de le ratifier, car depuis le début du XVe siècle, l'Église disposait d'une grande autonomie, à tel point que le roi n'avait pas vraiment son mot à dire dans le choix des responsables qui la dirigeaient, comme les évêques, par exemple. Et ça, moi, vous imaginez bien que ça ne me plaisait que très peu. Heureusement, avec Léon X, nous avons trouvé un accord. Bien sûr, certains membres de l'Église étaient mécontents et ont protesté prétextant que c'était une décision injuste. Mais, la belle affaire! Alors, j'ai tapé du poing sur la table pour imposer ma volonté.
C'est pas très diplomatique, tout ça.
Il est vrai, il est vrai. Mais j'avais tout de même trouvé une entente avec le pape. Et parfois, il faut se rendre à l'évidence. On ne peut pas mettre tout le monde d'accord. Mais vous allez voir, mes efforts diplomatiques ne s'arrêtent pas là. À plusieurs reprises au cours de ma vie, j'ai tenté de nouer des alliances avec mes principaux rivaux, Charles Quint et Henri VIII. En 1520, j'invite ce dernier à me rejoindre dans le nord de la France, non loin de sa chère Angleterre, pour essayer de trouver un terrain d'entente. Pour l'accueillir, je fais dresser d'immenses tentes pourvues de draps d'or et doublées de velours bleu. C'était un spectacle magnifique où tout scintillait de mille feux. J'avais aussi prévu des festins, des bals et des tournois, mais tout cela, à part me coûter une fortune mirobolante, ne sert strictement à rien.
Pourquoi ?
Parce que nous avions tous les trois un caractère de cochon et qu'on avait du mal à faire la moindre concession. Ce qui est vraiment stupide, maintenant que j'y pense. Ça nous aurait évité bien des ennuis.
Parce que vous avez continué à vous disputer ?
Oui, mais surtout avec Charles Quint. Pour concurrencer son influence, je décide de conquérir toujours plus de territoires italiens. Et j'assiège la ville de Pavie, également dans le nord du pays. Le 24 février 1525, je donne l'assaut et la bataille tourne à notre avantage. Les troupes de Charles Quint présentes sur place sont même obligées de battre en retraite. Alors moi, Plein de fougue et aveuglé par mon désir de victoire, je me lance à leur poursuite. Sauf que, quand je me retourne, je vois que mon armée n'a pas eu le temps de me suivre. Et je me retrouve tout seul, encerclé par mes ennemis.
Oh, la boulette !
Comme vous dites, jeune fille, comme vous dites. Je suis contraint de me rendre et je me retrouve emprisonné à Madrid. En échange de ma liberté, ce coquin de Charles Quint m'oblige à lui céder la Bourgogne. Une honte !
Du coup, vous faites une pause avec les conquêtes ?
Pas vraiment, non.
Oh là là, c'est fou de voir comment les adultes ont du mal à apprendre de leurs bêtises. C'est dingue.
Il faut savoir que depuis que Christophe Colomb a ouvert la voie vers l'Amérique en 1492, les rois européens multiplient les expéditions pour s'emparer des richesses de ces nouvelles terres. Et bien sûr, j'en fais partie. En 1534, j'envoie en Amérique du Nord l'un de mes meilleurs navigateurs, Jacques Cartier. Il revient bredouille. Mais il repart l'année suivante, en 1535. Et cette fois-ci, il remonte le fleuve Saint-Laurent.
Là où se trouve maintenant le Canada.
Et il découvre une région prometteuse, habitée par des Indiens. Nous décidons alors de nommer cette terre la Nouvelle-France.
Au moins là-bas, Charles Quint ne viendra pas vous enquiquiner.
Non, ça, c'est bien vrai.
Et vous faites quoi pendant ce temps-là ?
Je m'occupe avec une autre de mes passions, l'architecture. Toute ma vie, j'ai aimé les rives de la Loire. Quelques années auparavant, j'ai choisi la ville de Chambord pour y faire construire l'un des plus beaux châteaux du royaume, situé en plein cœur d'une forêt magnifique. En 1536, les travaux battent leur plein. Au total, il y a 156 mètres de façade, 426 pièces, 77 escaliers et 282 cheminées.
Ça doit être un sacré casse-tête pour le Père Noël.
Oh oui, 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 je vois très bien. Moi, je l'avais visité avec mes parents.
Comment ça, visiter ? N'importe qui peut y entrer maintenant ?
Oui, oui. Et c'est vrai que c'est très joli, hein.
Ah, merci.
Et du coup, vous profitez de votre nouvelle maison pour vous reposer ?
Oh, un roi ne se repose jamais vraiment. Non, moi j'en profite plutôt pour faire des grandes réformes. Grâce à moi, en 1539, le français devient la langue officielle du royaume. Je crée l'état civil pour répertorier les naissances et je limite les pouvoirs de l'Église.
Oh, ça doit être épuisant.
Comme vous dites. C'est peut-être pour ça qu'en 1547, à 52 ans, je suis gagné par la fièvre et je meurs peu de temps après, laissant de précieuses consignes à mon fils qui deviendra le futur roi Henri II. Et voilà, une vie bien remplie et partagée entre conflits avec les souverains voisins, tentatives d'apaisement et conquêtes en Europe et en Amérique. Avez-vous encore des questions, les enfants ?
Oui, moi. Quand j'ai visité le château de Chambord, on m'a dit que votre emblème, c'était la salamandre. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ?
Ah ah ! Évidemment ! Pour ceux qui ne le savent pas, la salamandre est un animal légendaire connu pour vivre dans les flammes. J'aimais beaucoup la symbolique derrière tout cela et c'est tout naturellement qu'un dicton m'est venu. Je me nourris du bon feu et éteins le mauvais comme la salamandre.
Ça veut dire quoi ?
Que je me préoccupe des bonnes choses et que je préfère éviter les mauvaises. Bon, je dois vous laisser maintenant. J'ai rendez-vous avec mon ami Charles Quint. Depuis qu'on s'est retrouvés tous les deux dans le grand livre d'histoire, on est devenus inséparables. Comme quoi, même là où je suis, on peut toujours avoir des surprises. Au revoir, les enfants.
Au revoir, François Premier.
Eh bien, les enfants, qu'est-ce que vous retenez de tout cela ?
Que si on est gentil avec ses voisins, ils nous donneront peut-être des cadeaux comme Léonard de Vinci avec François Ier.
Oui, si on veut. On peut aussi dire qu'entretenir de bons rapports avec les autres permet de vivre en paix, de découvrir de nouvelles cultures et de s'enrichir sur le monde qui nous entoure, non ?
Ah oui, oui, ça c'est bien aussi.
Bon, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve très vite pour une nouvelle rencontre historique.
Thank you.
Cet épisode a été écrit par Thomas Le Petit Corps, interprété par Vincent Payet et Clara Ziegler, mis en musique par Léopold de Roy et Fanny Dupuis. À bientôt pour un nouvel épisode de Dans la classe de...
Ce podcast a été produit par Unique Héritage Média. Retrouve toutes les informations sur maisondupodcast.fr.